Le problème du logement à l'année sur l'île Dieu est régulièrement évoqué sur l'antenne de Neptune FM. On fait le point sur différents sujets avec Emmanuel Maillard, adjoint au développement économique à la mairie de l'île Dieu. Bonjour.
Bonjour.
Elsa Marché, chargée de mission Habitat à la mairie de l'île Dieu. Bonjour.
Bonjour.
Une proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale est déjà passée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Un autre projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables arrive au Sénat mi-juin. Est-ce que les spécificités insulaires des îles du Ponant, dont fait partie l'île Dieu, sont prises en compte? Emmanuel Maillard.
Sur la première loi, sur la fiscalité des locations courtes, oui, dans le sens où il y a un rééquilibrage de la fiscalité et on a des nouveaux outils pour les communes qui vont permettre de réguler les locations touristiques. Après, dans le
quels nouveaux outils?
Alors, il va y avoir une obligation d'enregistrement pour tous les propriétaires de locations courte durée.
Qui ça va existe se faire déjà, sur... non?
Oui, mais là, elle va être obligatoire au niveau national. Ça va se faire sur un téléservice national. On va avoir aussi derrière des outils de contrôle et de régulation des déclarations. Il va y avoir aussi une obligation de se mettre en adéquation avec qu'on appelle les DPE, les exigences énergétiques minimales. On va avoir aussi des possibilités dans le changement d'usage, c'est-à-dire dans la réglementation que chaque commune va pouvoir mettre sur le parc de locatifs courte durée. Il va y avoir de nouveaux outils qui seront inscrits dans la loi, qui n'étaient pas avant et qui fait que les communes qui essayaient de réguler se faisaient attaquer.
Vous connaissez donc, déjà voilà. Ces nouveaux outils?
Oui, il y en a une certaine sur les quotas, sur des compensations. C'est très technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, notamment parce que tout n'est pas encore voté, puisque ça va repartir en commission paritaire. Des députés et des sénateurs vont faire un mix de ce qui s'est voté aux deux et le texte viendra après. Mais ça, c'est pas mal, puisque ça permet de réguler l'allocation touristique courte durée, alors qu'avant, il n'y avait pas vraiment de cadre pour la réguler. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur la seconde loi qui est en préparation, c'est-à-dire que le gouvernement vient de présenter une proposition de loi qui va passer non pas à l'Assemblée en premier, mais au Sénat, ce coup-ci en premier, le 17 juin de mémoire. Et sur cette loi, en fait, elle est là pour permettre aux maires de construire plus de logements. Puisque le gros problème, c'est qu'en France, il manque des centaines de milliers de logements, notamment dans les villes. Et donc, la loi, elle est très axée là-dessus. Donc, plus de logements sociaux, plus de logements intermédiaires, faciliter la construction entre les pouvoirs publics et les promoteurs privés. Il y a un droit de préemption élargi, mais s'il est conditionné au fait que derrière, vous avez une opération de lotissement ou d'immeuble, des choses comme ça. Donc c'est sûrement bien, là j'ai pas de jugement à avoir, mais on va dire que c'est sûrement bien pour construire des centaines de milliers de logements en France, sauf que, en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est pas de dizaines et de dizaines de logements, puisqu'on est un territoire fini.
Territoire clos.
Ouais, avec une réserve foncière qui s'amenuise, voire les autres îles du Ponant, certaines n'ont quasi plus de réserve foncière. Et on a, en France, actuellement, le prix des maisons est en train de tomber. Ils arrivent plus à vendre, ils arrivent plus à signer des permis, alors que chez nous, c'est pas le cas. Nous, ce dont on a besoin, c'est d'une régulation, d'une lutte sûrement de la spéculation foncière et immobilière. On a besoin de récupérer du logement permanent. Et ça, la loi, elle n'y répond pas. Donc, ce qu'on fait actuellement...
Donc, ce que vous nous dites, c'est que ces deux lois vont ne servir pas à grand-chose sur l'île Dieu.
Non, la première va servir, puisqu'elle va nous aider à réglementer et à réguler le logement de courte durée. Et par contre, la deuxième loi sur le logement abordable, il l'appelle, elle ne nous aide pas, parce qu'elle... Finalement, elle prend pas en compte les problèmes des îles. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on s'est rapproché de sénateurs vendéens, donc Madame Billon, par exemple, pour à l'île Dieu, les gens la connaissent, et d'autres sénateurs de Bretagne. Et ils sont en train de nous aider à essayer de bien comprendre nos spécificités et on leur propose des outils de solutions ou des pistes de solutions qui seraient adaptées à l'île Dieu. Et eux sont en train de travailler à écrire des amendements pour pouvoir présenter ça le 17 juin au Sénat en disant les îles n'ont pas les mêmes problèmes, elles n'ont pas les mêmes spécificités, donc il leur faut des solutions spécifiques. Donc, ils vont essayer de mettre ça en musique, parce que nous, on ne sait pas écrire un amendement. Donc, eux vont le faire et vont essayer de les présenter. Et on est en train de travailler, donc, avec Mme Billon, notamment, en direct, et avec les élus de l'Association des îles du Ponant, parce que ça va être porté par toutes les îles.
Les problématiques sont à peu près les mêmes sur toutes les îles du Ponant.
Oui, alors avec des différences, puisqu'on a des tailles différentes. Il y a des îles qui n'ont plus de foncier de réserve, par exemple. Mais oui, de toute façon, il n'y a aucune île qui réussit actuellement à construire du logement social à cause du surcoût. Il y a l'augmentation, les courbes d'augmentation du prix du bâti, elles sont comparables. Nous, on est plus haut que la grande majorité, mais de toute façon, les courbes, elles montent. Donc certains sont en avance, on va dire, hélas, dans les problèmes et dans la gravité des problèmes, mais tout le monde se retrouve à peu près dans la même situation. Oui.
Est-ce que vous avez avancé sur ces problématiques de logement et de logements sociaux sur l'île Dieu ? Parce que la dernière fois qu'on s'était eu sur cette antenne, c'était pas simple, notamment avec Vendée Habitat.
Oui, alors c'est pas simple à cause du surcoût. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux, que ce soit Vendée Habitat ou un autre, en fait, quand on essaye de monter un parc de logement social, en fait, soit personne ne répond aux appels d'offres, soit les réponses sont hors, elles dépassent les plafonds que les bailleurs sociaux sont en capacité d'accepter. Parce que eux, c'est pas du privé, ils disent pas oui. Donc ça veut dire qu'on a un problème de surcoût. Donc ça, par exemple, dans la loi qui va être proposé, il n'y a rien sur le surcoût pour les îles. Donc ça, on l'a porté à connaissance de Mme Billon, notamment, et il faudra aider. Ce qui se passe aussi, c'est que les bailleurs sociaux sont aussi en train de faire une sorte de mue, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à construire différemment de la manière dont ils construisaient sûrement il y a 20 ans. Enfin, tout est en train de changer, donc chacun doit prendre sa part du changement. Et l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, si on veut que les logements sociaux se fassent, en gros, il faudrait que la commune paye tout le surplus. Mais depuis 10 ans, par exemple, sur les îles du Ponant, il n'y a pas eu un parc de logement social qui est sorti de terre. Donc c'est un vrai problème, quoi.
Par rapport toujours à ces lois, est-ce que, avec le poids de l'association des îles du Ponant, vous pensez vous faire entendre ?
Ah oui.
Ou c'est un coup d'épée dans le dos ?
Ça, on le saura après le 17 juin. non, mais on y croit. De toute façon, j'ai envie de dire, il ne faut même pas se poser la question. C'est soit on dit c'est mort
et
on laisse tomber, on ne fait rien. Soit on se dit, de toute façon, il faut se battre et puis voilà. Quoi. Donc, c'est ce qu'on fait.
Autre sujet abordé avec vous, la pétition Lille non aux promoteurs immobiliers lancée par l'association Les Enfants de Tempête a été signée par 38 652 personnes pour le moment. Quel est votre ressenti ?
Je dirais que de toute façon, mais je l'ai déjà dit à l'antenne, c'est que pour régler le problème du logement ou pour régler des vrais problèmes comme ça de territoire, il faut que les citoyens soient actifs. C'est-à-dire que le maire, s'il prend son téléphone puis qu'il appelle un ministre, il dit « faut tout changer, ça ne marche pas comme ça ». Si par contre les communes s'associent, comme avec les îles du Ponant, tous les maires, et si en plus vous avez des collectifs d'habitants qui vont montrer via les médias, via des pétitions, via eux aussi, ils peuvent aller voir des élus et des parlementaires en leur disant « attendez, notre situation n'est pas bonne », à ce moment-là, ça va marcher. Donc la pétition, elle nous a fait du bien, elle a fait du bien à tout le monde, parce que d'abord, elle nous oblige en tant qu'élus à écouter, à regarder et à réfléchir et à se remettre en cause, donc ça c'est toujours bien. Et elle nous a aidés aussi, notamment sur donc elle visait les
promoteurs immobiliers privés.
Voilà, les promoteurs qui viennent faire de l'investissement, c'est-à-dire qu'un promoteur qui viendrait construire un parc de logement social, c'est pas, on n'en parlerait pas de la même manière. Là, c'était ça. Depuis plusieurs années, les choses changent. On s'aperçoit qu'on tombe dans la crise, qu'on a réfléchi qu'il fallait trouver des solutions, qu'il fallait se battre pour éviter des choses. Là, on a parlé de la spéculation immobilière. Sur les promoteurs qui sont arrivés là, et notamment les deux qui étaient visés par la pétition.
Notamment Kaufmann et Braun.
Voilà, ça nous a permis de retourner les voir. Eux, ça leur a permis de comprendre que leur projet de base, qui était déjà bien avancé, parce qu'il est arrivé très tôt, il y a plusieurs années que c'est arrivé. Ce projet qui était de faire, on va dire, une résidence avec 36 logements, donc à visée de résidence secondaire ou de plateforme pour faire de la location courte durée. Nous, ça nous a donné de l'argument pour aller rediscuter de tout ça avec eux. Eux, ils se sont rendus...
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Eux, ils se sont dit que s'ils avaient, on va dire, la moitié de la population ou toute la population contre eux, leur projet n'allait pas pouvoir se faire. Donc, on a rediscuté de tout ça. Et le résultat, c'est qu'on arrive maintenant avec un engagement de leur part, de notre part et aussi de... et mine, c'est-à-dire du consortium qui va gérer la base de maintenance de l'Île-Dieu, à dire... Eh ben,
le projet de parc éolien entre l'Île-Dieu et Normandie.
Oui, et c'est de se dire qu'à la fin, il y a un engagement de toutes ces personnes en disant, ben, en fait, ces 36 logements vont servir à faire du logement à l'année pour les actifs
de la base de maintenance.
De la base de maintenance. Et le reste, parce qu'il en resterait, on va dire, une petite dizaine, en gros, servirait à faire soit alors du BRS, alors c'est du bail réel solidaire, soit de la location à l'année. C'est-à-dire que c'est de la location, enfin, c'est de l'habitat à l'année. Donc, on passe de 36 résidences secondaires à 36 habitations à destination, à vocation d'être des habitations à l'année, soit pour des actifs, soit pour des insulaires. En fait. Voilà, on a réussi à trouver quelque chose qui change la destination de ces logements.
Elsa Marché, avez-vous avancé sur la stratégie locale d'habitat ?
En fait, une stratégie locale de l'habitat, c'est un document qui va définir en fait, la feuille de route de la commune en matière de politique de l'habitat, donc pour une durée de 6 ans. Ça va nous permettre de caractériser nos besoins, de définir, de se questionner sur la qualité, le confort des logements qui existent, se questionner sur l'adaptation au vieillissement de tous ces logements. Et l'idée, c'est vraiment de prendre en compte tous les publics, donc les jeunes, les familles, les personnes seules, les personnes âgées, les personnes handicapées, et de travailler de manière partagée, donc en association, que ce soit avec tous les partenaires, de mettre autour de la table les bailleurs sociaux, l'État, le département, mais aussi les acteurs de l'île, donc agences immobilières, notaires, les associations et les habitants. Donc l'idée, c'est de... En fait, l'intérêt, c'est de faire un point sur la situation où on en est aujourd'hui, de réfléchir à de potentielles nouvelles actions qu'on n'aurait pas imaginées en matière de logement, et aussi de prouver que la commune a une stratégie qui est mise en place pour pouvoir bénéficier de nouveaux outils et de le justifier auprès de l'État. Donc en termes d'avancement, là on a un marché public qui a été lancé il y a quelques mois et du coup on a retenu un prestataire pour nous accompagner. Donc là on entre dans le lancement de cette étude, là fin juin, début juillet, avec une réunion de lancement, et c'est parti pour une durée d'un an pour aboutir à un document finalisé d'ici un an.
Les saisonniers trouvent-ils un logement facilement pour cette saison 2024 sur l'Île-Dieu ?
Alors, au niveau de la commune, pour 2024, nous, on a renouvelé deux opérations qui avaient déjà été lancées ces dernières années. Donc, tout d'abord, l'hébergement des saisonniers au sein du centre de vacances des Patagos, du PEP du Doubs, qui est situé à Saint-Sauveur. Donc, depuis 2022, cet ancien centre de colonies de vacances a été restauré pour y accueillir les travailleurs saisonniers des entreprises illaises. Et au sein de ce centre, on a 14 chambres avec un espace commun qui sont gérées par la mairie et qui sont louées d'avril à octobre. Et du coup, l'opération a été renouvelée cette année. Et on a un deuxième dispositif, donc on incite les propriétaires à héberger les saisonniers des entreprises chez l'habitant. Donc avec l'Office du tourisme, on a lancé une campagne d'incitation de ces saisonniers chez l'habitant. Et du coup, les propriétaires qui auraient une chambre inoccupée, ils sont invités à se rapprocher de l'office pour être mis en relation avec les entreprises pour y loger leurs saisonniers. Donc le principe, c'est que l'office collecte les offres de location, elle recense les besoins des entreprises et elle assure la mise en relation entre propriétaires et entreprises. Les propriétaires louent directement aux entreprises et non aux saisonniers. Et du coup, c'est une démarche qui a été lancée en 2023 Et
ça a bien fonctionné en 2023 ?
Alors en 2023, non, c'était les prémices. On a eu 2-3 contrats qui ont été signés.
Et cette année, du coup,
là, on a 11 saisonniers qui sont logés dans le cadre de ce dispositif chez 5 propriétaires différents.
Ça fait peu, parce qu'il y a beaucoup plus de saisonniers.
On est d'accord, mais c'est pas mal déjà en 2 ans. En 2 ans, c'est bien parce que...
Est-ce que vous avez d'autres stratégies également
Sachant qu'on a des... On a de l'année dernière des gens qui avaient pris contact et qui sont en train de trouver un arrangement aussi hors dispositif, en fait, en servant de l'idée, quoi. Après, il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont sûrement hésiter. S'ils voient que ça se passe bien, ils passeront le pas.
Dernière chose à voir avec vous, une coopérative d'habitants se met en place sur l'île Dieu. Comment la mairie est partie prenante dans ce projet, Emmanuel Maillard ?
Alors, on réunit plusieurs idées dans ce projet. Tout d'abord, il y a une partie de la population de l'île Dieu, il y a des jeunes qui sont venus nous solliciter parce qu'ils avaient envie d'une nouvelle forme d'habitat.
Notamment les enfants de Tempête. L'idée d'habitat participatif,
oui,
ça vient des enfants de Tempête.
Les gens sont venus voir les enfants de Tempête et les enfants de Tempête sont venus nous voir. Il y a ça. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on a cette crise du logement. On a aussi le fait que pour résoudre la crise du logement, on a vu tout à l'heure, il faut travailler sur le surcoût, sur la spéculation, sur des choses comme ça. Et il faut travailler aussi sur de nouvelles formes d'habitat. Et l'idée, c'est d'avoir un habitat... une résidence principale permanente. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a le statut de résidence principale, il faut qu'elle le reste, même quand les gens partiront, décéderont ou voudraient vendre. Et donc la coopérative, ce qui est intéressant, c'est que vous construisez une sorte d'éco-quartier, on va dire, de quartier que vous décidez et qui va être porté par une coopérative, donc par une structure. Et cette structure, elle va garantir le fait que ces différentes maisons ou cet immeuble va rester une résidence principale, quels que soient les habitants qui viendront.
En gros, comme une personne part ou une famille part, une autre prend sa place.
Exactement. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse, puisqu'on est en train de travailler sur ces formes d'habitat permanent. Et l'autre chose qui est intéressant là-dedans, c'est que ça reste en résidence principale. Et surtout, c'est que les gens rentrent et ressortent quand ils s'en vont. Et la maison ne leur appartient pas. Eux, ils font partie de la coopérative, comme un actionnaire, on va dire. Et quand ils ressortent, la coopérative leur rembourse leur mise de départ. Avec un coefficient, on l'augmente. Enfin, ça, c'est à la coopérative de décider. Mais surtout, ça veut dire que cette maison ne sera jamais vendue. Donc, elle sort de la spéculation. Une fois que le projet est fait, cette maison-là va rester un habitat permanent abordable pour tous. Donc ça, c'est intéressant et c'est pour ça que la mairie a voulu s'associer au projet. La manière dont on accompagne le projet, elle se situe sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est le terrain. C'est-à-dire que le terrain est un terrain communal et qu'on le va louer à la coopérative.
Ce terrain est situé où ?
Alors, il est situé à Port-Joinville. Pour l'instant, on ne peut pas en dire beaucoup plus, si ce n'est qu'il a une superficie de 2200 m². Ça permet un peu de se projeter et de voir le nombre de ménages qu'on peut imaginer sur ce terrain.
Vous pensez à combien de ménages, Elsa ?
On est entre 5 et 10, mais...
5 et 10 maisons ?
5 et 10 maisons, oui, entre 5 et 10 maisons. Ce n'est pas encore figé parce que ça va vraiment dépendre des groupes d'habitants qui vont se présenter et qui vont être intéressés par le projet. Et puis, en fonction du projet qu'ils ont, ils vont devoir monter une sorte de faisabilité financière. Et selon le nombre, c'est eux qui verront si à 5 ou à 10,
c'est viable ou pas.
Le site sera précisé au moment de la réunion publique qui aura lieu mi-juin.
Le 11 juin prochain.
C'est ça, exactement.
Emmanuel Maillard.
Oui, et l'autre forme d'accompagnement, c'est que la commune va accompagner... Alors là, par exemple, on travaille avec deux structures qui sont spécialisées dans le montage des coopératives d'habitants, parce que c'est très courant dans d'autres pays et ça l'est pas vraiment en France, en fait. Donc, ils nous aident à monter le projet. Ils vont nous accompagner pour la réunion de présentation et ils vont nous aider. Donc, ils vont aider la commune à accompagner les gens jusqu'à, on va dire, la pose de la première, du premier parpaing ou de la première brique, comme on veut. C'est-à-dire qu'on va accompagner les gens dans leur, euh, dans la création de leur coopérative, dans leur faisabilité financière, dans ce qu'ils veulent faire, dans s'il faut aller les aider vis-à-vis de l'architecte, aller chercher de l'argent auprès des banques, on sera là, déposer les permis, on sera là, trouver qui va construire, comment ça va se construire, on sera là. Et donc tout ça, parce que c'est pas simple à faire, c'est-à-dire que tout le monde arrive à comprendre, j'achète un terrain, je vais voir un architecte, et puis après je vais voir un maçon, un charpentier, un menuisier, je fais une maison. Là, c'est un peu plus compliqué, donc on va les accompagner jusqu'au bout, en fait.
La mairie est presque la garante de ce projet.
Oui.
Bah, parce que vous nous avez parlé
c'est
de,
pas une garantie financière, etc. Mais
non, parce que vous
le
nous
fait...
avez parlé de banque, etc.
Oui, c'est-à-dire qu'on on, comme on va être là à accompagner, c'est-à-dire que d'une manière, on va être garant moral, enfin, ou garant technique aussi, tout le long du projet. Quoi.
Emmanuel Maillard, adjoint au développement économique à la mairie de l'Île-d'Yeu, un dernier mot avant de se dire au revoir.
Alors, sur la coopérative, juste une petite chose, c'est-à-dire que, en gros, c'est l'intérêt des gens là-dedans, c'est de se dire, une coopérative, au final, il va c'est se construire son habitat, comme si j'étais... propriétaire. Donc, je vais définir à quoi ressemble mon habitat. Je vais le faire. Il me correspondra. Mais ça va me coûter moins cher, notamment à l'Île-d'Yeu, que si je vais acheter un terrain et que je fais construire une maison. C'est-à-dire que le but, c'est qu'à la fin, vous soyez comme vous ayez votre maison à vous, que vous ayez décidé, et elle vous coûte bien moins cher que celui qui va tout faire tout seul sur un terrain privé, etc. C'est la compensation du fait que, en effet, dans 20 ans ou dans 30 ans, si vous partez l'Île-d'Yeu, par exemple, et que, eh ben, vous ferez pas de bascule financière en revendant votre maison. Vous
Il y a perdrez juste les parts pas sociales qui reviennent.
Voilà, vous perdrez pas d'argent, mais vous en gagnerez pas du, enfin, juste dû au prix de l'offre et de la demande sur l'Île-d'Yeu. Par contre, elle va vous coûter votre habitat principal que vous aurez choisi et dessiné va vous coûter moins cher. Que dans le mode standard. Quoi.
Car c'est géré par une coopérative de plusieurs habitants.
Oui, et qu'il y a plein de... Et qu'il y a, il y a dans la définition, on va définir des communs, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'il y a une laverie pour tout le monde. Si on est 10, bah, on n'achètera peut-être que 2 machines à laver plutôt que 10 machines à laver. Il peut y avoir un garage commun, un atelier commun, etc. Quoi. Il y a aussi une forme d'entraide,
de
partage, de solidarité, et c'est assez intéressant comme projet.
Elsa Marché, chargée de mission Habitat à la mairie de l'Île-d'Yeu. Dernier mot avant de se dire au revoir.
Oui, pour rappeler du coup que les personnes qui sont intéressées par ce projet peuvent venir à la réunion publique d'information qui est organisée par la mairie, qui aura lieu le 11 juin à 20h en salle 3 à la Citadelle. Donc l'idée, c'est de présenter le projet et un peu les différentes étapes de l'appel à projet qui va être lancé. Et voilà, s'il y a des questions ou si les personnes ne sont pas disponibles, il ne faut pas hésiter à passer à la mairie, au service Habitat ou à nous contacter pour avoir plus d'informations.
L'association ADCOP sera présente à cette réunion publique pour expliquer la démarche, comment que ça va se passer, la mise en place.
Oui, c'est ça exactement. On a deux associations qui nous accompagnent dans le montage de ce projet, donc que sont ADCOP et l'éco-habitant. Et les deux associations seront présentes pour répondre à toutes les questions des habitants sur le sujet.
Merci à vous deux d'être venus sur Neptune FM. À très bientôt.